Et le chapitre 14. L'évangile de Marc est chapitre 14. Nous lirons les versets 32 à 52. Nous sommes dans notre étude de Marc arrivés ce matin au jardin de Gethsémané. Marc nous dit ceci en racontant sans doute ce qu'il avait appris et entendu de Pierre, dont il se fait le secrétaire en écrivant cet évangile. Ils allèrent ensuite dans un lieu nommé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi d'effroi et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis il s'avança un peu, se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne-moi de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Parce que même si cette phrase résumée est très courte, je l'ai dit en quelques secondes, Jésus a prié une heure. Il les trouva endormis et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas été capable de veiller une heure? Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et pria en répétant les mêmes paroles. L'échange n'a pas changé. Le vœu du Seigneur n'a pas changé, le besoin, la première heure n'a rien donné. Il y a eu un silence de la part du Père, il revient dire les mêmes choses. Il revint encore et les trouva endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne savaient que lui répondre. Imaginez quand tu vois ton meilleur ami saisi d'effroi comme cela et tu t'endors pendant qu'il lutte et prie et gémit. Il revint pour la troisième fois. La nuit est longue pour lui. Et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Sans effet, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. « Levez-vous, allons, celui qui me livre s'approche. » Aussitôt, comme il parlait encore, survint Judas, l'un des douze, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné un signal, « Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le et emmenez-le sous bonne garde. » Aussitôt arrivé, il s'approcha de Jésus en disant « Rabbi », faisant semblant d'être son ami, et il l'embrassa, faisant sembler de donner une salutation amicale. Alors ces gens portèrent les mains sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là tira l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus prit la parole et leur dit, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous. J'enseignais dans le temple. Et vous ne vous êtes pas saisis de moi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Ou bien que les Écritures soient accomplies. Alors, dit Marc, tous l'abandonnèrent, c'est-à-dire ses disciples, et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, vêtu seulement d'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha le drap et s'enfuit tout nu. Quel est ce détail-là? Beaucoup de commentateurs pensent que c'est parce que Marc, qui a écrit cet évangile, c'était le jeune homme habillé de ce drap. Il était présent. Et personne d'autre ne raconte un détail qui n'a aucune importance, sauf si c'est toi. Si c'est toi. Et peut-être la chambre haute était la chambre de son père. Et c'est pour ça qu'il était au courant et qu'il a suivi tardivement, couvert d'un drap, depuis cette maison, voyant les disciples partir vers le jardin, il les a suivis. Tout cela est une spéculation, mais c'est vraiment très, très bien possible. À portée de vue de l'enfer, nous allons prendre le temps ce matin pour contempler un des moments les plus impossibles à comprendre pour nous dans cette passion de notre cher Sauveur. Ce jardin de Gethsémané, jardin de l'angoisse, jardin de victoire. Et nous allons essayer de réfléchir sur quatre choses. D'abord, Jésus se rend à un jardin. Deuxièmement, Jésus fait face à l'enfer. Troisièmement, Jésus surmonte l'épreuve critique. Et quatrièmement, Jésus affronte en Seigneur son arrestation. D'abord, Jésus se rend à un jardin. Nous lisons dans le verset 32, ils allèrent ensuite dans un lieu nommé Gethsémané. Dans un lieu nommé Gethsémané. Mais nous avons lu plus tôt dans le culte un peu plus au sujet de ce jardin qui était vers le mont des Olives. Jésus sortit avec ses disciples et dit Jean pour aller de l'autre côté du ravin de Cédron où se trouvait un jardin dans lequel il entra lui et ses disciples. Judas qui le livrait connaissait l'endroit parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Jésus va dans un jardin. Il va dans ce jardin parce que c'est un endroit propice pour prier. Il y est allé souvent pour prier avec ses disciples. Il est allé à ce jardin parce que c'était un endroit propice pour être rattrapé, trouvé et saisi et arrêté. Il s'est rendu sciemment dans un endroit où il savait que Judas chercherait sans aucun doute pour le trouver. Et troisièmement, il va dans un jardin parce que c'est un endroit propice pour renverser un terrible crime qui s'est commis dans un autre jardin il y a bien longtemps. Nous abordons le deuxième point. Jésus se rend à un jardin et là, Jésus fait face à l'enfer. Lisez avec moi dans le verset 33 au sujet de son angoisse extrême. Excusez-moi. Le verset 23 nous dit, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi d'effroi et de l'angoisse. Avez-vous jamais vu quelqu'un qui est saisi d'une émotion très forte et qui, oui, qui les domine, qui les surprend, qui les inonde, qui les surnoie? Il y a des situations où, oui, cela arrive et c'est terrible à voir. Le texte en français dit que Jésus a été saisi d'effroi. Le mot effroi signifie stupéfaction. Jésus est saisi de stupéfaction. Il est terrifié par quelque chose qu'il voit maintenant mentalement. Autant il était calme dans la chambre haute, enseignant, lavant les pieds des disciples, disant tout paisiblement à Judas, « Fais vite ce que tu dois faire. » Maintenant, le temps est venu, l'heure est venue, et il se tourne dans sa pensée vers la croix qui l'attend. Et Dieu le Père permet que maintenant il est affronté par la réalité dans toute sa profondeur. Et Jésus, qui comprend mieux que nous tous ce que c'est que cette croix, il a cet enfer devant lui et c'est dans quelques heures, je dois y être. Mon rendez-vous, c'est maintenant, ce n'est pas plus tard. Quand nous avons vu les images du tsunami en Asie de l'Est, terrible. Ou bien ces bâtiments de New York qui se sont effondrés le 11 septembre et les gens qui se jetaient depuis des gratte-ciel, qui hurlaient, qui se pendaient, qui étaient terrifiés. Quand nous voyons de l'horreur comme cela, nous nous approchons, mais vraiment, chers amis, très, 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 très peu, je vous assure, très peu de ce que Jésus voyait devant son esprit en ce moment dans ce jardin. Je vous expliquerai pourquoi, mais saisi des fois, saisi d'angoisse. Le mot angoisse parle d'horreur. Imaginez que vous allez quelque part et vous contournez un coin et là, à votre grande surprise, il y a un de vos amis mort et mutilé dans une voiture accidentée. Ou votre époux, ou votre épouse, ou votre enfant, devant vos yeux. Là, en ce moment, vous êtes saisi d'horreur, horrifié. Et Marc nous explique que Jésus a commencé à être saisi d'horreur, d'angoisse. Nous lisons aussi dans le verset 35, si vous voulez bien regarder, que Marc nous explique que puis il s'avança un peu, se jetant contre terre et pria. Nous avons notre cher Sauveur devant nos yeux ce matin, tel qu'il était homme. Il est homme, chers amis. Il n'a pas le droit de faire appel à sa puissance, à ses pouvoirs divins. Il doit vivre ceci en tant que, non pas surhomme, non pas presque homme, mais non, il suspend, il se dépouille de ses pouvoirs divins qu'il a, mais il ne les emploie pas, il n'affronte pas, il ne subit pas, il ne vit pas cette horreur-là comme un surhomme. Il est accablé comme un homme. Et comme un homme dépassé, il se jette par terre, nous dit la Bible. Et il se jette par terre pour toi et pour moi. Luc nous dit, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Et nous voyons des signes d'une angoisse qui aurait tué le Christ là avant d'arriver au calvaire, dans le jardin. Et c'est pour cela que le Seigneur dit, je suis triste jusqu'à la mort. Je vous traduis. Je suis pris par une tristesse et une angoisse qui menace de me tuer tellement elle est grande en ce moment même. Je suis devant cela. Voilà son angoisse extrême et nous demandons pourquoi. Ceux qui ne comprennent pas la croix du calvaire peuvent penser, mais d'autres hommes ont vécu des horreurs, ont dû subir un mort terrible et y ont fait face avec courage. Pourquoi est-ce que Jésus, qui fait face à tout avec courage, est-il maintenant complètement dépassé? Et c'est simplement parce que Jésus n'a pas peur de la crucifixion physique. Simplement. La Bible dit que quand le Christ est crucifié physiquement, quelque chose d'autre lui arrive qui n'est pas physique. La Bible dit, et nous allons le voir dans le verset 36 que vous pouvez lire avec moi, dans la prière de Jésus, il disait « Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. » Cette coupe. Ah, la coupe. La coupe. Jésus sait très bien de quoi il parle. Marc sait très bien de ce qu'il écrit. Parce que partout dans les Écritures des Juifs, il y a cette coupe. Jérémie 25, 15. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël, dit Jérémie. Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Le psaume 75. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. Apocalypse 14, le Nouveau Testament. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front et sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange. C'est-à-dire, il n'y a aucune pitié quand la colère vient. Il n'y a aucune miséricorde. Versé sans mélange dans la coupe de sa colère, il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et c'est pour cela que le Nouveau Testament nous dit, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Car l'Éternel, nous dit la Bible, ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Je ne sais pas quel Dieu vous avez dans votre tête quand vous pensez à Dieu, mais il y a un Dieu. Et il s'est révélé. Il a expliqué aux hommes, à vous et moi, comment il est. Et il a dit qu'il est un Dieu d'amour. Mais il nous a expliqué que il ne peut qu'être un Dieu d'amour sans être un Dieu de colère si le mal entre dans son univers. Il y a des gens qui aimeraient bien avoir un Dieu d'amour, mais pas un Dieu de colère. Mais est-ce que vous comprenez que vous ne pouvez pas avoir un Dieu d'amour, sauf si vous avez un Dieu de colère? Je vous explique comment. Qui sont les gens qui ne sont pas en colère, mais vraiment fâchés, quand ils apprennent qu'il y a des jeunes filles qui ont été gardées pendant 18 ans dans une cage par quelqu'un, et violées et abusées pendant toutes ces années? Qui sont ceux qui n'ont pas de colère? Qui sont les gens qui ne sont pas en colère quand ils entendent parler de l'oppression terrible, des actes terroristes que nous venons de vivre à Paris, au Nigeria, où on a mis un harnais sur une petite fillette alourdie de bombes et on l'a envoyée au centre du marché et on l'a fait exploser? Qui sont les gens qui ne sont pas des gens coléreux devant des faits comme ça? S'il y en a, ce sont des gens qui n'ont pas d'amour. Si vous n'aimez pas les gens au marché ou la fillette, si vous n'aimez pas les gens dans ce magasin juif à Paris, si vous n'aimez pas les gens qui ont été, les filles qui ont été opprimées ou violées en Belgique, si vous n'avez pas d'amour, si vous n'aimez pas les gens ni la justice, ça ne vous fâche pas. Mais si vous aimez les gens et la justice, cet amour se traduit par la colère quand le mal, quand le mensonge, quand la perfidie, quand l'arrogance, quand le meurtre, quand la haine se déchaîne. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. La colère de Dieu est une réaction saine et juste de la pure bonté. De la pure bonté contre la fourberie, la pestilence humaine, notre arrogance, notre égoïsme destructeur, nos immoralités. Notre orgueil, notre refus de Dieu et des hommes. Ce n'est pas une réaction arbitraire, ce n'est pas un manque de maîtrise de soi comme la colère humaine qui est tachée de péché. La colère divine est différente, sainte, autre, bonne, et elle viendra sur des âmes encore un jour. Elle se manifeste déjà, dans une certaine mesure, dans notre histoire, même en France aujourd'hui. Mais ce jour-là, notre cher Sauveur doit boire la coupe de la colère de Dieu. Ce n'est pas juste son corps qui est crucifié comme les brigands à côté de lui. Lui, il doit boire jusqu'à la lie l'enfer éternel, la colère de Dieu contre tous les péchés de tout son peuple. Toutes les oppressions et les meurtres de celui qu'on appelait Saul de Tarse, Jésus doit les prendre sur lui et en subir la peine et la colère divine pour que ce monsieur devienne l'apôtre Paul, un homme sauvé. Et vous aussi, les vôtres. Lesquels sont-ils? Vos péchés et les miens qui ont mérité la colère de Dieu. Je connais les miens, mais trop bien. Pas tous, sans doute, mais j'en vois assez. Mais je voulais donc juste vous signaler, et on va maintenant aborder le troisième point du sermon, que Jésus est dans cette angoisse parce que il est face, chers amis, à l'enfer. Un enfer que le Père ne va pas lui forcer de subir. Il est devant le choix humain, saisi d'angoisse, désintégré parce qu'il voit l'homme parfait. Et il doit maintenant subir cette épreuve où il doit dire, est-ce que je vais obéir et boire la coupe? Ou est-ce que je vais penser à moi-même et devenir l'homme désobéissant? Nous abordons logiquement donc maintenant le troisième point. Jésus surmonte l'épreuve critique. Nous lisons dans le verset 35, il s'avança un peu et se jeta contre terre et pria. Parce que nous, vous et moi, on veut savoir, mais comment est-ce qu'il a géré cette épreuve? Comment est-ce que maintenant il va arriver à dire oui à la volonté du Père, quand la volonté du Père signifie le calvaire? Comment est-ce que Jésus a fait? Et Marc nous dit qu'il pria s'il était possible que cette heure s'éloigne de lui. Et il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et vous voyez qu'il revient plusieurs fois vers les disciples et il leur dit, veillez, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Mais il revient tout seul vers le Père pour affronter cela. Qu'est-ce que nous apprenons? Premièrement, je vous rappelle, et je l'ai dit, Jésus doit affronter comme un homme à la place des hommes. Deuxièmement, il va quitter toute compagnie et chercher Dieu tout seul. Vous voyez qu'il amène certains disciples à une certaine distance, trois disciples plus proches, et puis s'éloigne, et tout cela doit se passer entre lui et le Père. Votre Sauveur n'a pas eu d'aide, et il ne pouvait pas en avoir. Quand il a dit à ces trois, veillez et priez, ils n'ont même pas pu prier pour lui. Votre Sauveur doit subir tout seul. C'est l'heure des ténèbres et les hommes mortels et pécheurs sont trop faibles pour entrer dans cette bataille-là, chers amis. C'est le Christ seul, c'est sa justice seule qui peut tenir devant une telle tentation. Tout le monde fuit, tout le monde se sauve, tout le monde pense à lui seul, tout le monde ment. Tout le monde, et le Christ seul est là avec toute la grandeur de la tentation satanique sans doute, qui est sur lui de dire non au Père une seule fois. Mais c'est lui seul qui peut tenir. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez faire face tout seul à toutes vos épreuves. Il y a des gens qui ne savent pas comment appliquer la Bible bien et ils veulent tout rapporter à eux-mêmes, comme s'ils étaient le Christ. Non, le Christ est différent. Il doit subir des choses que vous ne subissez pas. Oui, parfois, vous devez aller seul à seul avec Dieu. Je suis d'accord avec vous. Mais très souvent, vous avez besoin de la prière des autres, du conseil des autres, que quelqu'un vienne vous aider. Lorsque Martin Luther était dans la déprime, et ça lui arrivait souvent, il a appris et il disait que la pire des choses pour moi, c'est d'être seul. Même seul dans la prière. Quand certaines choses arrivent. Donc, ne soyons pas tellement égoïstes. Qu'on se met, nous, à la place de tout le monde dans la Bible, vous n'êtes pas tout le monde dans la Bible. Donc, regardez le Christ, lui, aujourd'hui, et oubliez vos affaires. Il est en train de sauver, vous ne sauvez personne. D'accord? Et il est tout seul. Deuxièmement, comment le Christ a-t-il vaincu pour aller jusqu'à la croix? Il a mis sa confiance dans le Père. Regardez sa prière au verset 36. Il dit Et remarquez les premiers mots de sa prière, c'est très important les amis. Les premiers mots qui sortent de la bouche d'une personne angoissée, inondée, dépassée, c'est très important. C'est parce que c'est ça qui est vraiment dans son cœur. Et tout de suite, il dit, Abba Père, toutes choses te sont possibles. C'est incroyable. C'est incroyable. Ce n'est pas comme vous. Ce n'est pas comme vous. Ce n'est pas notre réponse immédiate dans les défis les plus difficiles, les souffrances les plus grandes. On doit de plus en plus avoir cette réponse. D'accord? Nous devons imiter notre Seigneur là. Je vous exhorte maintenant cette fois, soyez comme lui de plus en plus. Mais oh, notre Seigneur, il se jette par terre presque mort. Par horreur et terrifié, et il dit, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Et après peut-être 3 heures de prière, quand le ciel ne dit rien, Dieu n'exauce pas, le Père ne lui dit rien apparemment. Pas de voix du ciel comme auparavant, n'est-ce pas? Quand il comprend que le Père dit non, à sa demande, éloigne de moi cette coupe. Jésus fait confiance au Père. Une confiance complète. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a une grande leçon là pour nous, n'est-ce pas? Ouh. Mais la deuxième chose, c'est que Jésus exprime son désir honnêtement en pleine humanité, dans sa pleine humanité. Regardez-le. Il dit, Père, et je cite la version de Matthieu, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. C'est la prière d'un homme parfait. Ça nous semble paradoxal parce qu'il doit aller à la croix. Jésus comprend toutes les prophéties de l'Ancien Testament à son sujet. Il connaît le plan du Père. Mais en ce moment, devant l'enfer, il exprime ce que l'homme parfait exprime. Un homme parfait ne peut pas vouloir goûter de la colère de Dieu. Un homme qui aime Dieu plus que tout autre, comment peut-il vouloir être abandonné et frappé par le Père à cause du péché des autres? Comment peut-il vouloir être dans l'enfer où appartiennent les méchants? Il ne peut pas vouloir cela. C'est impossible. Ça doit être la plus grande heureux possible pour lui. Et donc, il demande une demande légitime, moralement, parce que, en tant qu'homme parfait, il ne mérite pas la punition. Il mérite la faveur de Dieu, la récompense. Il n'est pas en train de dire, donne-moi quelque chose que je n'ai pas mérité. N'est-ce pas? Il n'est pas en train de sortir de ce qui est juste. Il prie quelque chose qui est juste. Mais avec cette proviso, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Pourquoi est-ce que je souligne cela? Parce que Jésus, en ce moment, il est en train d'endosser, d'embrasser sa pleine humanité, votre humanité, afin de vous sauver. Vous savez qu'il y a un moyen d'éviter des souffrances. Vous savez ce moyen? Les stoïques l'utilisent souvent, et les bouddhistes. Dans les deux philosophies, on étouffe son humanité. On étouffe ses désirs. Le stoïque, c'est celui qui essaie de tuer ses désirs humains. Et le bouddhiste aussi, c'est le cœur même du bouddhisme, c'est de tuer tout désir. Et vous savez que si tu peux arriver à tuer ton désir de la vie, de ce qui est bon, alors tu peux affronter la mort et ne pas en souffrir autant. Mais il faut tuer ton humanité. J'ai des enfants qui sont sur le point de partir de la famille pour être des adultes, maintenant pour fonder leur propre famille. J'en ai deux qui sont juste sur le point de nous quitter. Et si je veux être égoïste, et si je veux m'échapper de certaines souffrances, je n'ai qu'à ne pas penser à tout le bien que nous avons ensemble, à la bénédiction de les avoir comme enfants, combien ça me réjouit. Il faut juste que je n'y pense jamais, que j'étouffe en moi mon désir de les avoir avec moi, et je vais souffrir un peu moins. Mais j'aurais tué mon humanité. Dans le jardin, Jésus n'est pas venu pour tuer son humanité afin de se sauver. Il est venu pour embrasser notre humanité afin de mourir, souffrir pleinement, pleinement comme un homme et nous sauver. Jésus avait un prix à payer, chers amis, pour toi. Et pour payer le prix, il faut qu'il subisse pleinement la perte. Et c'est pour cela qu'il prie et il sent, Ô Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. La dernière chose qu'il prie, ce n'est pas seulement la confiance, ce n'est pas seulement le désir humain, mais c'est la soumission. Il dit toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et c'est là que ton salut a été gagné. Là, dans ce moment, et là, dans ce sentiment tellement juste, confiant, aimant, pas du tout égoïste, saint et pur et bon, 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 il dit, non pas ce que je veux. Et là, je veux vous exhorter. La différence entre une vie chrétienne dans ton mariage, dans ta vie avec tes enfants, dans ton métier, dans ton église, c'est combien est-ce que ta vie est dirigée par ce principe. Qu'est-ce qui est là-dedans pour moi? Qu'est-ce qui est là-dedans? Ce que je veux. Dans un autre jardin, un homme qui s'appelait Adam a décidé de se diriger par ce principe. Non pas ce que tu veux, mais ce que je veux. Et l'humanité a horriblement chuté. Maintenant, dans un autre jardin, le dernier Adam dit devant l'enfer lui-même, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Pour vous et moi, la soumission aussi signifie que là où la volonté de Dieu et ma volonté ou ta volonté rentrent en conflit, nous disons non pas, non pas. Ce que je veux, mais ce que tu veux. Et si nous ne disons pas cela, fondamentalement et habituellement, nous ne sommes pas chrétiens. Nous ne sommes pas chrétiens. Non pas, ça change tout. Ça change les mariages, ça change de la manière dont nous vivons avec nos parents, avec nos enfants, avec nos collègues, ça change tout. Ça, c'est l'amour et ça, c'est aussi un calvaire. C'est un calvaire. Très, très, très petit. N'est-ce pas? Rien comparé au Seigneur. Mais c'est notre croix que nous portons lorsque nous disons non pas ma volonté, mais la tienne. C'est là que commence la réalité. En dehors de tout cela, tout ce que vous vivez, c'est de l'hypocrisie pure et parfaite. et moi aussi. Mais seulement lorsque nous sommes prêts à dire ta volonté et non pas la mienne, lorsque les deux sont en conflit, là nous sommes de véritables, d'authentiques enfants de Dieu revenus à lui. Je quitte la question de vous et moi parce que nous voulons surtout voir le Seigneur parce qu'il le dit d'une manière qui secoue le monde, n'est-ce pas? Ce jour-là dans le jardin, lorsqu'il dit « Non, pas ma volonté, il y a une justice, il y a une pureté, il y a une bonté dans cela qui ébranle l'enfer et qui détruit toute possibilité de vaincre l'homme. » Donc, on va aborder le dernier point qui est très très court, mais avant de l'aborder, je résume. Dans le jardin, Dieu a dit à un premier Adam, « Ne mange pas ceci ou tu mourras. » Il a dit, « Je mangerai. » Et il est mort. Dans ce jardin, ce jour-là, le dernier Adam, Dieu lui a dit, « Bois ceci. » Et il n'a pas voulu. Et il l'a bu. Dans cet autre jardin, ce premier Adam a dit à Dieu, non pas ma volonté, non ta volonté, mais la mienne. Et ici, dans ce jardin de Gethsémané, Jésus dit, non pas la mienne, mais la tienne. Dans le premier jardin, l'homme a décidé de faire confiance à la parole du serpent, de Satan. Plus de confiance à sa parole qu'à ce que Dieu lui-même dit. Le serpent avait dit, « Mange, tu ne mourras pas. » Et l'homme a pris la décision de croire à un serpent, plus qu'à Dieu. Et dans ce jardin de Gethsémané, sans doute tout en lui le tentait de reculer, de ne pas croire qu'il devait aller à la croix. Et il dit, « Père, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Je fais confiance à toi. Ta volonté, qu'elle soit faite, parce que j'ai la foi, je crois qu'elle est parfaite et bonne et nécessaire. » Jésus reçoit son seul non-exaucement de la prière et il vous rejoint. Parce que vous avez prié pour des choses et Dieu a dit non. Dieu ne dit pas non à un homme parfait. Sauf cette fois parce que l'homme parfait est devenu l'homme coupable dans le jardin, n'est-ce pas? Il prend notre place. Dieu le voit comme le coupable. Il lui refuse. Il dit non. Il lui dit rien. Il n'écoute pas. Et dans le jardin, Jésus commence déjà à vivre le calvaire qui le pousse à dire « Mon Père, mon pauvre Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et tout cela pour vous et moi. Dernier point. Lorsque Jésus se lève et il dit « En effet, l'heure est venue, le Fils de l'homme sera livré aux hommes pécheurs », la bataille est finie, chers amis. La bataille pour vous sauver est finie. Jésus doit maintenant être arrêté, frappé, couronné d'épines, craché dessus. Il doit subir 3 procès injustes. Il doit être traîné au mont du calvaire, portant son bois sur lui-même. Et il doit avoir les clous qui percent ses mains et ses pieds. Et il doit gémir pendant 3 heures. Sur une croix entre le ciel et la terre, et il doit saigner et il doit expirer. Mais tout cela, c'est maintenant sûr et certain. Parce qu'il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne, d'une manière ferme et irrévocable. Et maintenant, Jésus affronte son arrestation en Seigneur. La bataille est finie, il est victorieux. Et c'est vraiment incroyable, la manière, le fruit de sa soumission, on le voit. C'est lui qui va aborder ces capteurs, ceux qui vont le prendre. C'est pas eux qui le surprennent dans la prière, c'est lui qui dit il est l'heure. Et c'est lui qui les affronte, c'est lui qui dit qui voulez-vous? Et quand il dit c'est moi, n'est-ce pas? Il dit en fait je suis. Et quand il dit ce mot je suis, qui est le nom pour Dieu, Yahvé, il tombe par terre. C'est extraordinaire pour moi. C'est comme si Dieu voulait montrer aux disciples, comprenez bien la scène. C'est pas que Jésus est pris parce qu'ils ont des épées et des bâtons. Lui, tout ce qu'il a à faire, c'est de dire c'est moi, et il les terrasse tous. Si Jésus est saisi ce jour-là, c'est qu'il tend les mains. C'est qu'il a dit que les Écritures soient accomplies. C'est lui qui se donne pour vous. Ce n'est pas quelqu'un qui le prend par violence pour qu'il meure pour vous. Il est le seul à pouvoir, parce qu'il est maître, à donner sa vie. Et il vient se rendre à Judas et à ceux qui sont venus avec ses armes. Ça, c'est très bien pour nous, n'est-ce pas, de savoir et de voir que ce choix par lequel le Sauveur nous sauve, c'est un choix d'angoisse, de souffrance humaine terrible, réelle. Tout cela n'est pas un jeu. Tout cela est terriblement réel, terriblement vécu par notre Sauveur. Béni soit-il pour toujours. Et que nous puissions le suivre de mieux en mieux sur ce chemin du calvaire. Nous allons chanter ensemble. T'aimer Jésus, te connaître. Dans le recueil, c'est quel numéro, Niki? 60.